Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous allons retrouver cette semaine encore, nous allons retrouver le théâtre du Cornéadet avec Jean-Pierre Armand. Jean-Pierre Armand, bonjour.
Bonjour.
Et Raphaël Braille.
Bonjour Christian.
Bonjour Raphaël. Alors, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de vous avoir dans ce studio de la rue de la Salie, ici à Toulouse. Vous nous avez parlé du dernier spectacle sur Camille Claudel, Camille l'Interdite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui est un personnage mythique de la chanson française, qui a marqué tout le XXe siècle et qui est pour nous, évidemment, un des personnages que nous avons le plus aimé, peut-être des gens de notre génération, Jean-Pierre Armand, qui est de ma génération, c'est-à-dire des gens de l'après-guerre, disons, hein, c'est Jacques Brel.
Je suis aussi de l'après-guerre, moi. Mais un peu après et l'après.
De l'immédiate après-guerre.
Les 20 glorieuses, pas les 30.
Voilà, c'est Jacques Brel. Alors, c'est bien, le théâtre donc de Cornéadet a promu ce spectacle qui s'appelle Brel debout, et c'est bien d'avoir fait un spectacle sur Brel aussi pour les générations nouvelles maintenant, hein, puisque il va falloir aussi faire vivre et survivre, bien entendu, l'œuvre de Brel. Bon, je pense que pour le moment, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas trop de difficultés, et que Brel reste, hein, même parmi la jeunesse.
C'est pas si évident que ça.
C'est pas si... Ah oui,
non,
oui.
C'est pas si évident.
Bon.
Il y a... Oui. Fait les chansons à texte... Ben, pour moi,
hein, oui,
elles
oui, oui.
disparaissent petit à petit. Ah, mais oui. C'est même pas qu'elles disparaissent. Hein. En réalité, elles existent. Mais disons qu'elles sont plutôt... dans un contexte souterrain.
Oui.
De troisième, quatrième cercle, dans des petits lieux où des gens qui écrivent vraiment très très bien... et qui pourrait même avoir la trempe d'un Jacques Brel, ouais, d'un Brassens, d'un Ferré,
mais qui n'arrivent pas.
Je sais pas s'ils n'y arrivent pas, mais ouais. Ils ont leur petit public, mais on va dire que c'est beaucoup moins vendeur aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'est dommage,
ouais,
parce que c'est d'une authenticité rare, c'est d'une force rare, et ces gens-là existent, mais on ne les voit pas assez.
Oui. Oui. Évidemment, les trois grands, hein, Brel, Brassens, Ferré. Il y a quelque chose de quasiment irremplaçable quoi, dans ce trio où vraiment c'est absolument mythique quoi.
Ben, hein? Oui, il y a quelque chose d'irremplaçable, mais je le disais il y a quelques secondes, c'est-à-dire que des auteurs-compositeurs qui pourraient avoir cette fibre, je suis sûr qu'ils existent.
Oui.
On les entend pas assez. Je prends juste un exemple d'un auteur-compositeur qui est décédé, je crois que ça fait maintenant une dizaine d'années, enfin, qui a eu un parcours incroyable, dont Nougaro disait que ça a été le poète le plus foudroyant qu'il ait jamais rencontré. C'était Alain Leprest.
Ah oui.
Et Alain Leprest, même une station de votre sphère, France Inter, a reconnu que lors de sa mort, ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Hein.
Ah oui.
Il mériterait un hommage considérable.
Oui, oui, oui.
Il n'a jamais fait les plateaux, les grands plateaux télé.
Oui.
Écouter quelques-uns de ses textes, Une valse pour rien, SDF, La colère, entre autres. Et musicalement, ce qui se passe derrière aussi, comme Brel avait François Robert et Gérard Joannès, ce qui se passe derrière Alain Leprest, il y a des équivalences qu'on peut allègrement tirer. Hein.
Alors, revenons à Brel.
Bah oui, c'est le sujet du départ. Mais
bon, oui.
Ils sont irremplaçables, ce trio-là est irremplaçable, mais... Mais bon, je veux dire, au XXIe siècle, il doit y en avoir quelques-uns, mais maintenant,
mais qu'est-ce que vous pensez aussi des gens qui chantent Brel?
Bon, alors, écoutez, c'est une belle question, pertinente. Moi, je trouve aussi que c'est abominable.
Je trouve ça désastreux que quelqu'un prenne, s'autorise, s'auto, je sais pas quoi, s'auto-commercialise pour incarner, pour vouloir incarner Brel. On ne peut pas incarner Brel. Brel est Brel. Brel se dit, c'est, il est dans l'authenticité et aucun. Alors là, Raphaël m'en dira plus parce que je ne me souviens plus des quelques noms, les trois ou quatre qui actuellement chantent encore Brel. Je trouve que c'est une honte. Je me demande que même comment les gens qui aiment Brel puissent entendre un pastiche, en somme, de Brel.
Oui. Par contre, parfois oui, quand on les entend, on a envie de boire un pastiche.
Oui, oui, oui. Oui.
Voilà. Non, mais sans aller aussi loin que Jean-Pierre, même si je partage dire à 99,9% son avis, mais c'est que il y a des gens qui sont tellement nostalgiques que le voir réapparaître. C'est même plus de l'incarnation à ce moment-là, c'est de la réincarnation. Oui. Donc ça veut dire que ceux qui ont des spectacles sur Jacques Brel, bon, mais beaucoup, se griment physiquement, au niveau costume. Mmh. Des fois, ils épousent la même formation musicale. Jean-Pierre n'a pas les noms, mais il manquerait plus qu'on les donne, déjà par délicatesse, et puis en plus on va pas leur faire la pub, ils le font très bien tout seul, mais on est dans une société de consumérisme, et malheureusement, les gens consomment, alors que Brel, on écoutait, et qu'il y a les auteurs-compositeurs aujourd'hui qui auraient de la trempe, il faut aller les écouter, comme Brel disait, il faut aller voir. Voilà, donc ça veut dire que imiter Brel, cela ne sert à rien. Il y en a qui le font, il y en a qui aiment ça parce que ben ils ont l'impression de le revoir et ils ont manqué l'Olympia 1966, donc ils se disent non, il refait une représentation pour moi. Donc Brel est décédé. Voilà. Oui. Donc c'est paix à son âme. Enfin, il faut faire vivre sa mémoire, mais bien sûr que c'est absurde et même obsolète. D'essayer de lui ressembler jusqu'au physique, mais bon, c'est vrai que pour certains ça marche. C'est plus de la chanson, c'est du business.
Alors justement, ça fait la transition avec ce spectacle Brel debout, où vous avez totalement évité, Jean-Pierre Armand et vous, Raphaël Brel, vous avez totalement évité.
Vous avez confondu. Hein? Vous avez confondu.
Brel.
Oui, c'est Brel. Il y a une lettre Brel. J'aurais pu faire
Il y a un I. Il faut mettre les points sur les I, en plus. Il y a Brel et Brel.
Pardon du lapsus. Mais bon, je vais être excusé quand même.
On vous excuse.
Ne pas imiter Brel, mais. C'est par le biais de son meilleur ami, donc Jojo, hein, le fameux Jojo de la chanson Sous pied, sous terre, Jojo, tu frères encore.
C'est ça, c'est hein? Un secrétaire particulier.
Voilà, secrétaire particulier.
Et en fait, Jean-Pierre a écrit une fable. C'est ni plus ni moins une fable. Et il amène le public dans un rêve qui, parfois... devient peut-être réalité chez certains. Voilà, ça veut dire que c'est un retour aux sources ou un retour en enfance. Mais tout ça est c'est presque une vaste blague. Mais c'est quelque chose qui aurait très bien pu arriver. C'est juste Georges Pasquier qui se met au piano lors d'une soirée un peu arrosée avec Jacques Brel. Voilà, un peu arrosé comme on le fait entre potes, hein, mais sur scène, personne ne voit que la soirée elle est arrosée. Hein, donc les hommes sensibles peuvent quand même venir. Et tout ça, c'est un univers où Jojo reprend les chansons de Jacques Brel. Donc là, on peut pas.
C'est plus que ça, parce que bon, il y a sur un plateau aussi une grande voile, le clin d'œil bien sûr à l'engouement qu'avait Jacques pour la mer, comme il l'a eu pour l'avion, qui s'appelait Jojo d'ailleurs. Et il me fallait pour moi concrétiser tout ça sur un plateau avec une scénographie qui tienne le coup. Alors un piano, ça ne suffisait pas. Je ne voulais pas surtout faire un récital sur Brel et sans l'incarner. Alors ça y est, donc j'ai eu une idée et tant que je n'ai pas une scénographie, je n'ai pas de spectacle. Et donc là, j'ai imaginé une grande voile juste à côté du piano, où dans la voile on voit bien sûr des extraits qu'on a pris un peu partout de Jacques Brel, qui apparaît dans cette voile et qui discute avec Jojo.
On va l'écouter tout de suite.
Eh bien, oui. Jojo va se présenter.
Jojo, je suis ton ange gardien, ton secrétaire et ton chauffeur, ton confident.
Père Jacques, comme ça te va bien. Personne ne se donne aussi fort que toi à la scène, même pas le plus grand. Toi, tu mourras deux.
Les gens qui savent ce que c'est, que chanter ma chanson de la guerre, c'est répandre sans plaisir. Être
une heure, quelquefois être une heure, rien qu'une heure du grand.
Ça, c'est Jojo qui me présente.
Voilà, mais c'est Jojo au piano. Donc, c'est pour vous dire que c'était infâme, parce qu'il ne jouait pas une note, le mec.
Oui, c'était Joannès qui...
Oui, si je peux
ajouter... Ah, Jean-Canis, c'était Gérard Joannès.
Oui, oui. Si je peux ajouter, Raphaël Brel, là, devant moi, ça fait 20 ans qu'il me tarabusque pour chanter Brel. Et je dis, oui, mais Brel, non, tu vas pas chanter Brel comme ça. Bon, compte tenu de ce qu'on vient de dire, que je n'avais aucune possibilité ni aucune envie de lui faire jouer, de lui faire chanter Brel, j'ai attendu longtemps, 20 ans, c'est quand même pas mal. Et à la suite d'un bon repas, bien arrosé là aussi, je vois ce monsieur devant moi, Raphaël Brel, mais je dis, mais ça y est, mais tu n'es pas Brel, tu es Jojo. Et alors là, de là est parti donc l'envie, par l'intermédiaire de Jojo, de chanter Brel.
Voilà. Et de construire donc le spectacle sur ça.
Voilà.
On va écouter de nouveau donc l'extrait de Mon enfance.
De fausses révérences. Libère, tu étais au moins de la grande maison qui avait joli l'antique au nord parmi les jours. L'été à moitié nu, même t'as fait mon modèle. Pourtant déjà certain, j'avais juste ma...
Voilà, donc l'enfance, c'est important l'enfance chez Brel.
Oui, c'est un petit peu comme chez Maurice Ravel, enfin pour parler de notre domaine, mais c'est voilà deux personnages qui sont souvent dans leurs chansons, dans leurs compositions, souvent traités de l'enfance. Et Brel avait très très peur. Enfin, ou avait, c'est pas, je sais pas si c'est une peur, mais c'est sa fille France qui parlait de ça, qui s'est vu vieux très vite.
Oui.
Parce qu'il avait des parents un peu âgés. Et à partir de 30 ans, d'ailleurs c'est dit dans le spectacle Brel debout, c'est à partir de l'âge de 30 ans que quand il écrivait à n'importe qui dans ses correspondances, il signait le vieux.
Oui.
Pour lui, à partir de 30 ans, il se trouvait vieux, et c'est qui fait que jusqu'à l'âge de 30 ans il a eu une énergie, enfin, c'est pas qu'il l'avait pas après, mais il avait une énergie décuplée, fallait croquer la vie, fallait la bouffer, parce qu'il avait peur que ça s'arrête très vite, qu'il s'écroule très vite. Bon, à 30 ans, ça a continué. Enfin, finalement, il l'a bouffé jusqu'au bout, la vie. Mais comme il avait cette envie de... quelque part, cette peur de vieillir, l'enfance était quasiment un refuge, quoi.
Il en parlait assez souvent, quand même, de l'enfance.
Ah, dans ses chansons, ça y est.
Oui, mais même dans le. Moi, j'ai eu la chance donc d'avoir des moments hein, avec Brel. C'est lui qui m'a fait avoir ma première ivresse.
Ah.
Parce que il buvait de la bière. C'était à l'hôtel Tivolier, qui est rue. Comment ça s'appelle cette rue à Toulouse, le Grand Hôtel. Grand Hôtel Tivolier, oui, rue de Metz. Rue de Metz à Toulouse, qui ensuite a été la préfecture, je crois, et puis maintenant qui est devenu un usage commercial quelconque. C'est là qu'il venait, qu'il logeait quand il venait à Toulouse. Et donc, comme il était le président de notre club, il nous recevait là, donc on passait la soirée avec lui. Et il nous recevait, alors, la première chose, c'était d'aller au bar, et au bar, il buvait des bières. Bière sur bière. Trois bières. Oh, pour quelqu'un qui n'a bu, bon, jamais. Effectivement. Et ensuite, après le spectacle, donc on mangeait avec lui, et après le spectacle, il buvait un litre, enfin, une bouteille entière de vin rouge.
Oui,
c'est ça. Et cigarette sur cigarette. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une énergie, mais qui bouffait la vie complètement, quoi. Qui est, Et quand on le voyait sur scène, la façon dont il transpirait, dont il se donnait complètement, c'était vraiment un don de soi complet, quoi.
C'est ça.
J'ai rarement vu, je crois, un artiste mettre un peu comme s'il mettait sa vie sur le bio quand il rentrait en scène.
Tout à fait, vous avez bien raison. Il crachait son âme.
Oui,
il crachait son âme.
Et avait la peur du public. Ce qui est. Ça veut dire qu'il respectait beaucoup.
Que les chanteurs rares de nos jours peuvent faire.
Oui. Alors on va écouter de nouveau un extrait donc de ce Brel debout. Il s'agit là de le couplet donc au suivant.
Ben oui, c'est la fin de l'enfance. Le service militaire.
On y va.
J'avais juste 20 ans et je me déniais. Moi, j'aurais bien un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien savoir le temps. Jacques.
Je voudrais ajouter quelque chose qui me semble important pour ce spectacle, puisque, en somme, les spectateurs voient Brel sur la voile, des vidéos magnifiques signées Bruno Wagner, et ce n'est pas du tout un récital, dans ce sens, ça casse justement le récital, parce qu'on a capté des images, Bruno Wagner a capté des images de Brel enfant qui se balance et Jojo de son piano le balance, le reçoit. Oui. Vous voyez, il y a une proximité, je veux dire, une proximité avec l'image qui fait, je crois, la beauté du spectacle. D'accord. Et voilà.
D'accord. On écoute le prochain extrait.
Allons-y.
Voilà, la fameuse valse à mi-temps.
Comme quoi, vous voyez que la soirée avec Jacques Brel, il ne faut pas qu'elle soit trop arrosée sur scène, parce que je suis aussi au piano, donc faut que les doigts, plus moi, faut que mes doigts et moi nous y voyons clair.
Voilà. Alors, je voudrais ajouter là encore une particularité du spectacle, c'est qu'en dehors des chansons,
qu'il chante pour Jacques, qui est dans la voile, il y a toute une discussion entre eux, courte, relativement courte, ce sont quelques phrases, mais ce sont des points de vue où des fois ils s'engueulent un petit peu sur les femmes, sur la mort, sur la vie, sur la joie de vivre, sur la nostalgie de la vie, et ça c'est très important. Et là on ne peut pas, on n'a pas les éléments d'illustration sonore pour le faire, mais c'est très 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 important dans un spectacle. Le spectacle ne se résume pas simplement à des chants avec Jacques Brel.
Sur Jacques Brel, c'est bien, il fallait absolument dire ça, c'est très bien. Mais je crois que Brel, enfin, c'est quelqu'un qui aimait parler de ça. Il en parlait constamment, même.
Ben, l'amitié, c'était son truc.
Oui, l'amitié, c'est absolument. Non, voilà. Mais même, il, cette espèce de... Il philosophait un peu tout le temps, quand même.
Sur beaucoup de sujets.
Oui, oui. Il était très prolixe dans la parole. Très, très prolixe dans la parole. Très.
Et même avec Jojo, c'était des discussions quasi ininterrompues, quoi. C'est pour ça qui de mieux que Jojo fait son plus grand confident, qui sait tout de Jacques Brel, quoi. Et pour parler de Jacques Brel, mais quelque part Georges Pasquier, c'est ce qu'il aime bien, quoi.
Nous on l'avait interviewé quand on était, donc il y a longtemps, hein, 1965, c'est-à-dire un an avant son fameux truc de l'Olympia, hein. Il fallait l'arrêter, quoi. Il n'arrêtait pas de parler. Il n'arrêtait pas. Il ne parlait pas pour rien dire, je veux dire. Tout ce qu'il disait était extraordinairement profond. Et ça, j'ai rarement vu des gens comme ça. Pouvoir dire, comme ça, d'une façon ininterrompue, des choses aussi profondes et aussi émouvantes.
Mais c'est quelqu'un qui croyait fermement en la vie. Même les galas, aujourd'hui, ça serait hyper compliqué. Il faisait jusqu'à 300 galas par an.
Oui.
Et donc, imaginez 300 galas, et avec la même énergie, avec la même intensité, la même envie. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est en lui. Et après les galas, avant les galas, dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un d'aussi entier, quoi, fait d'aussi énergivore, quoi.
Oui. Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'il s'est arrêté qu'il n'a plus voulu faire de galas, qu'il a vraiment à la chanson à un moment donné?
Mais peut-être qu'il entre guillemets il avait fait le tour, même si un an après son arrêt il s'est mis à la comédie musicale. Il avait peur d'un truc, et c'est ce qu'il avait dit à ses amis musiciens: si jamais je fais deux fois le même refrain, j'arrête.
Se répéter. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il nous avait dit aussi.
C'était une séantise. Lui, c'était presque un marqueur. Voilà. Et il a fait, alors bon, je sais pas si ça a à voir quelque chose dans cette émission, mais si, une fois, il avait rencontré Michel Sardou. Et il avait dit à Sardou, parce que c'est Sardou qui lui demandait, je crois, comment on fait dans ce métier, parce que Sardou était jeune à l'époque. Il a dit: écoute, Michel, quand tu sens que tu réécris la même chose, t'arrêtes. Voilà. Donc ça veut dire ne jamais se répéter, avancer, explorer. Et quand tu commences à te répéter, là t'as plus besoin de signer le vieux.
Oui. Et se renouveler, parce que bon, il faut un courage terrible quand même. C'est quand ça. On est au sommet comme il avait été, sommet de son art, dire bon, j'arrête ça et je vais faire autre chose. Alors ça a été la comédie musicale, c'était le cinéma. Avec tous les risques. C'est quelqu'un qui prenait les risques.
Tout le temps.
Tout le temps. Oui. Voilà,
il préférait quelqu'un qui se plante, mais qui essaye.
Oui.
Mais quelqu'un qui a le cul assis sur sa chaise.
Tout le temps. C'est ça. Oui.
Il avait déjà la notion de, quand on parle, quelqu'un est au sommet de son art.
Oui.
Un artiste est au sommet de son art. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à dire.
Oui.
Hein, voilà. Terrible. Donc, lui, il avait pensé qu'il était à un moment donné au sommet de son art et qu'il ne serait que condamné à se répéter et non pas à se renouveler sans cesse comme il voulait.
Oui.
Mais dans le théâtre, ça se passe de la même manière.
quelqu'un, un grand artiste qui arrive au sommet de son art, et c'est qu'il n'a plus rien à dire. Il faut tout le temps se remettre en question, revivre sa vie avec le temps qui passe. Oui. C'est pas le temps d'ailleurs qui passe, c'est nous qui passons. Tout le monde a fait cette erreur. Mais Brel était vraiment cet exemple de quelqu'un qui voulait vivre sa vie, et ce qu'il ne vivait pas encore, il voulait le vivre, mais quand il l'avait vécu, il s'arrêtait.
Oui, c'est ce renouvellement constant, mais ça traduisait chez lui une exigence extraordinaire. Il y avait une exigence en tout, en tout.
Et partout, fait même pour les répétitions, fait quand il composait des morceaux, c'était avec toute l'équipe, hein, la plupart du temps. Alors lui, il pouvait écrire des textes à l'hôtel, il pouvait par-ci, oui, par-là, oui, oui. Mais les compositions, ça se faisait avec Joannette, ça se faisait avec Robert, et c'était des heures où il cherchait le bon tempo, la bonne accroche au niveau de la musique, la mélodie, est-ce que ça va comme ça, est-ce que c'est... Parce que c'est l'histoire de... Quand même, c'est... Là, le mec est complètement ringard, là, qui attend sa nana, là. Comment on peut le traduire? C'était même des heures de palabres, mais où ils étaient dans un monde. Donc, ça vivait tout le temps, quoi.
Oui. Tu raconteras l'anecdote qui est magnifique, et il y en a qui ne la connaissent pas. Il arrivait même pour se régénérer, et pour ne pas dire sans arrêt la même chose, et comme il le faudrait, d'improviser des fois sur scène. Il improvisait surtout dans le geste, bien sûr, mais même dans l'accent, dans l'intonation, et notamment quelque chose qui a fait rire tout le monde presque sur le moment, dans la chanson, tu me diras laquelle c'est, où il disait allez,
de la Madone,
non, son batteur, il disait
Ah non, c'était Chauffe-Marcel.
Chauffe-Marcel, voilà. C'était pas prévu, ça. Hein. Il était parti, je ne sais pas dans quelle chanson, c'était...
Ça, c'est Vesoul.
C'est Vesoul. Dans Vesoul, voilà. Allez, Chauffe-Marcel.
C'est
pas du tout prévu. Il était capable de faire des choses comme ça. Dans l'instant. C'est magnifique.
On va écouter de nouveau donc un extrait de ce spectacle.
Elle est pourtant tellement jolie. Elle est pourtant tellement tout ça. Elle est pourtant toute ma vie, Madeleine. Qui ne viendra pas, mais demain je rencontrerai Madeleine. Je rencontrerai Cunida. Je rencontrerai toute la semaine. Ça, demain j'attendrai Madeleine, on prendra le 30, 33 pour manger les chez le gel. Madeleine, elle aimera ça, Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique, pas tant pis, c'est les grands bien pour moi. Dans 10 ans, vous n'êtes pas, demain j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lirai sur terre, Madeleine, elle aimera ça.
Voilà, la fameuse Madeleine.
Eh oui, et le fameux bouquet de lilas. Mais on n'en dit pas plus. Venez voir le spectacle.
Alors là, il y avait aussi, on peut parler peut-être des rapports de Brel et des femmes.
Ouf.
Madeleine.
Vous voulez pas nous réinviter, parce que c'est le Là, je pense qu'il est... Alors, Jean-Pierre Armand fait des trilogies, mais vous pouvez mettre en place des trilogies à Radio Occitania. Voilà, il y a la place. On peut même faire plus. Voilà. Bah, le rapport avec les femmes, c'est... Ben oui, c'est toute sa vie.
Toute sa vie.
C'est très, très complexe, très, très passionné, très... Voilà, très particulier parfois. C'est difficile d'en parler.
Il faut ajouter, tu en parleras mieux que moi. Raph, Brel n'était pas du tout misogyne.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en parle? Vous savez où on en parle toujours, c'est toujours pareil. Mais il n'était pas du tout misogyne. Il avait justement une idée de la femme, vraiment, de manière très élevée, très haute. D'ailleurs. L'une des plus belles chansons d'amour de toute la chanson française, pour moi, c'est Orly, où il y a une rencontre avec cette femme dont ils se séparent. On ne sait pas pourquoi. Il y a une énigme là-dessus.
Oui.
Et c'est une
un c'est, poème, c'est un déchirement,
un déchirement, oui, oui, un terrible. Poème d'amour terrible.
Terrible. D'ailleurs, tout ce disque là. Avec Jaurès, etc., qui a été fait en une seule prise, paraît-il. Une seule prise.
Oui, le dernier album.
Incroyable. Dernier album, une prise.
Et parce qu'il avait du mal à respirer.
Oui, oui. Oui, mais il y a rien qui cloche.
Non, mais il y a même une anecdote sur le dernier enregistrement, parce qu'il était aux Marquises, donc oui. Il est revenu pour l'enregistrement, oui, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas vu ses potes.
Oui.
Et on a prévenu, les musiciens ont été prévenus que Jacques Brel était quand même fatigué.
Ouais.
Et les musiciens savaient pas trop comment se comporter, en fait. Et tout le monde rentre dans le studio. A priori, il y a un petit malaise. Enfin, malaise au niveau de l'ambiance, j'entends.
Ouais.
Et tout d'un coup, il y a Jacques Brel qui va sous le piano, qui se jette sous le piano à queue.
Ouais.
Voilà. Et qui jette à la cantonade. Personne n'a vu mon bout de poumon? Il sort du piano. Bon, ça c'est réglé. On y va maintenant. Voilà. Et ça a détendu tout le monde. Voilà, en fait, ils étaient plus gênés que lui. Ça a tout décoincé.
Oui.
Et ce qui fait que les musiciens savaient de toute façon que ça n'allait pas forcément super bien.
Oui.
Donc tout le monde, sans se le dire, mais tout le monde était au diapason. Oui. Quoi. Oui. Et lui, de toute façon, n'aurait pas forcément pu faire plus d'une prise.
Oui.
Et ça faisait, il y a peut-être le contexte d'avoir retrouvé les amis.
Oui,
ça,
le euphorisant.
Et ça donne une atmosphère géniale à cet album.
Extraordinaire. Et tous, je veux dire, tous les morceaux de cet album, c'est vraiment du génie.
Tous.
Voilà. Et il faudrait peut-être aussi dire que les médias devraient le passer un peu plus souvent, ça.
Mais il devrait passer. J'allais dire, il devrait passer plus souvent la chanson française.
Oui,
ils vont vous dire qu'il faut. Enfin, s'ils vous arrivent à les joindre. Mais il passe de la chanson française. Il faut préciser de la chanson à texte.
Oui.
Voilà.
Oui.
Des chansons où il y a vraiment un message, où il y a vraiment un talent d'écriture, un talent de recherche musicale, mélodique, où la chanson ne fait qu'un, quoi. C'est un tout, tout est imbriqué et ça donne un résultat aux petits oignons.
En tout cas, c'est bien d'avoir fait ce spectacle, Jean-Pierre Armand, sur Brel debout. On va continuer avec l'extrait, c'est les bonbons, je suppose.
Un petit extrait des bonbons, parce que Jacques Brel était quand même un friand de dérision. Et donc dans Madeleine, il y a l'histoire du mec complètement ringard, même si on a un doute sur Madeleine, parce qu'il paraît que cette Madeleine, elle a vraiment existé, en fait. Mais il en a fait une histoire où c'est un mec qui attend par vents et marées une femme qui n'arrive jamais. C'est quand même pas l'apanage d'un misogyne que d'attendre une nana par vents et marées et se retrouver marron à la fin. Et le gars des bonbons qui est assez loufoque et même un peu machiavélique. Donc je veux dire, dans son œuvre, il y en a quand même eu pour tout le monde, que les gens se rassurent.
Une chanson mythique aussi, quand même, les bonbons.
Comme beaucoup, mais c'est ce qu'il y a aussi chez Jacques Brel, c'est qu'il y a, à travers la mise en scène de Jean-Pierre Armand, c'est porté encore plus haut, mais ces chansons étaient des petits scénarios.
Oui.
Et quand lui les interprétait, c'était des petites scénettes de théâtre.
C'est ça.
C'est ce qui demande une énergie terrible. Essayer de chanter ces chansons juste avec un micro et de balancer les phrases juste comme ça passe pas.
Oui.
C'est, il y a tout le corps qui doit bouger. C'est fou. Oui. C'est vraiment un tout.
Oui. Oui, voilà. Oui.
Et si ces chansons vous ne les vivez pas, ça marche pas.
Oui. Oui. Chaque chanson est une histoire. Et il donne cette histoire. Enfin, il y a une représentation de l'histoire effectivement par le corps.
Ça fait une raconte sa vie. Oui, et heureusement, oui. D'ailleurs, qu'il a, je ne sais plus, ça tu le diras mieux que moi, tu le sais mieux que moi, il ne s'est plus servi de sa guitare. Au début, Brel chantait.
Le curé Brel, quand on l'appelait.
Voilà,
curé,
oui, il chantait, oui. Il s'accompagnait avec sa guitare.
Avec Brel.
Et puis je ne sais plus quel impresario, là, qui lui a dit, mais non, il faut arrêter.
Canetti. Oui. Jacques Canetti.
Voilà, Jacques Canetti lui a dit, mais non, écoute, continue, il faut faire ça sans guitare. Oui. Et il se sentait tellement nu, et ça c'est important, sans guitare, que c'est pour dire justement son sentiment de pudeur qu'il avait dans la vie, avec tout le monde, sa crainte. Il s'est senti complètement déshabillé. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il se serve de tout son corps pour justement exprimer tout son dedans. Avec ses mains, ses yeux, sa bouche, sa bave, tout le temps. Il fallait pas être au premier rang avec Jacques Brel.
Oui. Oui. Et la transpiration, il était vraiment, c'était un sportif, quoi. Enfin, il faisait ça comme un athlète.
Ah, sur scène,
comme un athlète. Oui. Il perdait, je sais pas combien de kilos, quoi, chaque fois. C'est incroyable.
Il tombait un ou deux kilos chaque fois.
Incroyable. Oui, c'est pour ça qu'après il pouvait boire le.
Il a bien de la chance.
La bouteille rouge.
Bon, alors on va écouter maintenant peut-être Les Remparts.
Un petit extrait des Remparts.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les radars de sa fille. Madame promène son nom sur les grands places de l'Italie. Je trouve que madame vit sa vie. Madame promène à l'eau l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses filles. Madame promène un beau qui assure que madame est jolie. Je trouve madame est servie. Dans les corps, tous les soirs, je suis bestiaire, madame de la.
Donc on entend bien le piano aussi, hein, de Raphaël.
Ah oui, mais comme disait c'est Jean-Pierre,
c'est facile quand même.
Ben, sur scène, il faut que, faut que ça sorte de partout. Moi, il y a la voix, mais il y a les doigts. Physiquement, c'est difficile de faire comme Jacques Brel parce que je suis assis. Voilà, c'est pas France Gall, je joue pas du piano debout. Mais seulement, faut en fait, j'essaie d'être le plus fidèle possible à ce qu'ils avaient fait à quatre. Voilà, parce qu'il faut pas oublier les indispensables quand même qui étaient François Robert, Gérard Joannest, Jean Corti, Stéphane Combel, tous ces musiciens, c'était plus que des musiciens, c'était devenu une famille. Hein, et surtout pour Robert et Joannest. Hein. Joannest est un pianiste émérite, avec un mélodiste superbe, et François Robert, orchestrateur, prix de composition à Paris, pour lequel Brel a fait les livrets. Il se renvoyait la balle. Donc François Robert a eu son prix de composition ou d'orchestration au Conservatoire de Paris avec Jean de Brune, et c'est Jacques Brel qui a fait les paroles, qui a fait le livret.
Extraordinaire.
C'était une amitié indéfectible. Voilà, c'est ça aussi, c'est sympa de nos jours. Enfin, ça serait bien un climat comme ça de nos jours, avec des amitiés indéfectibles.
Oui. Ce qui était, quand on regarde après Brassens aussi, il y a eu ce sens de l'amitié. Hein. Il y en avait d'autres à cette époque.
Non, il y avait, bien sûr, il n'y avait pas que lui. Mais c'était peut-être
Je veux dire, cette période-là portait peut-être beaucoup plus facilement à cette amitié virile, etc. Les copains d'abord, oui. Ça, c'est vrai que c'est un fait de société qui a changé.
Énormément changé.
Oui.
Aujourd'hui, c'est l'individualisme.
L'individualisme, les réseaux sociaux, tout ça font que on est beaucoup plus dans l'individualisme forcené, quoi, en croyant justement par ces réseaux sociaux qui sont des miroirs aux alouettes, croire qu'on est avec les autres alors que c'est le contraire, on s'en éloigne.
On s'éloigne beaucoup du réel.
s'éloigne un peu de la conversation, mais enfin, c'est vrai qu'il a incarné une époque, oui, il faut le dire, il a incarné une époque où ça n'existait pas encore. Bon, et on peut, je pense, être nostalgique de ça, sans en avoir, sans culpabilité, on peut être nostalgique des rapports humains qu'il y avait peut-être
avant. On a aussi tout à fait le droit d'essayer de conserver cet état.
Oui.
Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est responsable de sa vie.
D'accord.
Donc c'est difficile, mais on a le droit de vivre des moments comme ça.
C'est des exemples.
Ou de les provoquer. Parce que dans l'époque que l'on vit, au bout d'un moment, on finit par se retrouver tout seul. Donc je vois pas ce qu'on a gagné à la fin. Et ces moments d'amitié, sans qu'elles soient viriles, mais des moments d'amitié, des moments de loyauté, de profonde affection, aujourd'hui, franchement, moi ça me manque.
Oui. Alors nous allons maintenant écouter les vieux.
Les vieux.
Ils ne rêvent plus, leurs livres sont sommés, leurs pianos sont fermés. Le petit chien mort, la muscade du dimanche, ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plaie. Et le temps d'un chanteau oublié toute l'heure,
voilà, très belle chanson, hein, les vieux.
Il avait le temps qui passe.
Oui.
Mais
il redoutait la vieillesse.
C'est quelque chose. Oui, on l'a dit au début de l'émission.
Oui, il redoutait la vieillesse.
C'était.
Il disait mourir la belle affaire, mais vieillir, oui, hein, voilà. C'est dans son dernier album, hein.
Ouais.
Là, c'était, oui.
C'est ça.
Il avait une véritable terreur, je crois même, de la vieillesse.
Oui, mais c'est sa fille qui le dit encore, mais c'est pas forcément tant la vieillesse, peut-être plus la vieillesse, effrayée plus par la vieillesse que par la mort.
Oui.
Mais c'est surtout ne plus sentir qu'il ne peut plus rien faire.
Oui.
Ça, avec le temps qui passe, le redoutait. Y en a qui le redoutent. Enfin, on le redoute tous, peut-être de plus en plus. Mais il y a cette angoisse-là qui était, mais alors depuis bien longtemps chez lui, en fait.
Oui.
C'est surtout le côté inactif ou le côté démission.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Hein. Et ils font rien, quoi. Ils sont là, ils attendent.
Oui.
C'est la définition qu'il donne du bourgeois.
Le bourgeois,
pour lui, c'est pas quelqu'un qui s'en canaille, qui fait n'importe quoi. Non, c'est justement quelqu'un qui reste assis. qui ne bouge plus et qui n'a plus rien à faire. C'est celui-là, le bourgeois, pour Jacques.
Qui ne cherche pas. Voilà. Qui ne cherche pas autre chose.
Tout à fait.
Ouais. Alors on va partir maintenant en Hollande, où Jean-Pierre Armand est allé également, il connaît bien.
Voilà, du côté d'Amsterdam.
Amsterdam, bon. Très beau port, le plus grand port donc d'Europe, Amsterdam. Très belle ville.
Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, des couleurs et des dents, à croquer la fortune, à décrocher la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue, jusque dans le cœur des frites, de leurs grosses mains vides, à
partir en plus, qui se lèvent en criant dans leur bruit de tempête, referment leur raquette et sortent dans le vent. Dans la France, sur la France des femmes, et ils tournent et le dansent, comme le soleil craché, dans le fond déchiré, dans l'accordéon danse. Ils se tordent le cou pour les entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard tienne, ils ramènent leur bacave, tout en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et reboivent, et qui repassent encore. Ils boivent à la santé, des putains d'Amsterdam, pour amour ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent pour l'âme, qui leur donne leur joli corps, qui leur vend leur verdu, et pour une pièce en or, et quand ils ont bien vu, se plante le nez au ciel, se mouche dans les étoiles, et il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Oui, génial. Je disais donc en antenne que Brel disait de cette chanson qu'il avait écrit ça comme un tableau impressionniste.
Oui, c'est bien, c'est bien de le savoir. Voir, j'en reste à la... Enfin, visuellement parlant, hein, avec les archives de la réaction du public en 66 à l'Olympia, ou 66 ou 64, je ne sais plus si c'était l'avant-dernier ou le dernier Olympia. Enfin, néanmoins, la réaction du public a été unanime, complètement surexcité, mais dans le bon sens du terme, et qui a complètement sidéré Jacques Brel. Puisque lui pensait que c'était une chanson ratée.
Et que l'histoire
a fait dire que c'était tout le contraire.
Comme quoi c'est le public qui a quand même le dernier mot.
C'est ça.
Toujours. C'est toujours le public qui a raison.
Toujours. Alors, une chanson assez terrible quand même. C'est le rapport à la mort qu'avait Brel. Cette chanson « J'arrive ».
Ben, j'arrive, c'est plus un pied de nez à la mort, puisque la mort, il n'en avait pas forcément peur, mais le temps qui passe, et j'arrive, qui fait partie du dernier album, elle est aussi la somme de tout ce qu'il a vécu les années précédentes avec la maladie, et ça donne, que même malgré l'échéance arrivant, il voudrait voir le dernier port, il voudrait faire trembler d'amour un cœur qui tremble, brûler d'amour un cœur qui tremble, pardon. C'est jusqu'au bout, il faut faire jusqu'au bout. Voilà.
On y va.
J'aurais bien aimé encore une fois avoir tiré des toiles et tomber mort, brûler l'amour, le cœur en sang. J'arrive, c'est même pas toi qui es à l'avance, c'est déjà moi qui suis en retard.
Des applaudissements parce que vraiment la réaction du public est toujours
La plupart du temps c'est un spectacle qui est ovationné
ovation.
Mais je préfère laisser parler le metteur en scène pour ce
il y avait le rapport aussi de Brel à la religion et à Dieu Bon, ici, par exemple, en Ariège, il y a eu un curé qui s'appelle Casimir Rivière. Je ne sais pas si vous avez aussi Casimir Rivière, qui était donc, il a été curé à 44 ans. Il venait d'une famille républicaine, donc c'était tout à fait extraordinaire que cette famille républicaine, qui était tout à fait même anti-curé. Et un fils qui devient curé à son tour. Et Casimir Rivière, donc, a noué des relations littéraires avec tous les grands noms de l'époque, Mauriac, etc. Et Jacques Brel. Mmh. Et Jacques Brel. Voilà. Et donc, il avait une... Quand on parle curé, etc., c'est de Casimir Rivière dans la chanson... Adieu l'ami, je t'aimais bien, tu sais. Et le curé dont il parle, en définitive, il a vraiment existé, et il est de chez nous.
Oui, mais l'Ariège,
c'est Casimir Rivière.
Je connaissais la rencontre.
Ce qu'il nous avait raconté, oui. Oui.
Jacques Brel a été enfant de cœur aussi.
Oui. Mais lui, parce que par tradition, je veux dire, il faisait partie d'une famille bourgeoise, là-bas. Pour la bonne bourgeoisie, bien entendu, d'ailleurs, les bigotes, etc., c'est un milieu qu'il a marqué, aussi.
Hein. Je crois qu'il était, un catholique athée.
Je crois qu'il y a quand même chez Brel une spiritualité. Je ne peux pas croire qu'un homme comme ça n'ait pas eu une spiritualité importante.
Certainement, mais il peut l'appuiser
ailleurs,
dans d'autres domaines. La religion a fait nourrir certainement des réflexions chez lui, mais sans qu'il soit un fervent.
Bien sûr, c'est entendu.
Voilà.
Absolument.
Pratiquant ou voilà, mais il était quand même. Faut pas oublier que mais tout ça ne sont que des chansons.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que il y a ces chansons qui traduisent une façon d'être, mais dans la vie, il a parlé quand même avec beaucoup de monde. S'il devait s'être mis à dos tous les gens qu'il a décrits dans les chansons, c'est pas. Il y a beaucoup de plaisanterie aussi chez Jacques Brel. Mais c'est dit avec tellement de finesse.
Oui. Voilà. Oui, c'est un bienveillant de toute façon.
Je pense qu'il y avait un côté bienveillant.
Oui. Bon, voilà. Jean-Pierre, donc sur la mise en scène, etc. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile?
Non. La difficulté, c'est de faire naître l'enfant, c'est-à-dire comment il va apparaître, d'imaginer la scénographie, d'imaginer la dramaturgie. C'est ça qui demande beaucoup de temps et de travail. Après, une fois qu'on sait où l'on va, qu'on a une scénographie, qu'on sait ce qu'on va, et quand on tombe sur un monsieur comme Raphaël Brel, tout va très vite après.
Oui, donc Raphaël Brel qui a fait...
Nous continuons à jouer ce spectacle. Oui. Les prochaines représentations, ça sera pour juste après l'été... Pimbalma, Sainte-Foy de Grefeuille, et puis d'autres encore, c'est en cours
de programmation. C'est la saison
2024-2025.
À partir de l'automne, c'est
voilà.
Ça. D'accord. On peut avoir une idée aussi du spectacle en allant sur le site
du Corneadé, les 3W habituels, théâtrecorneadé.com, et il y a toutes les instructions sur Camille Claudel, l'interdite, et sur Brel Debray.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Raphaël Brel, il manquait plus qu'une... il n'y a qu'une une lettre qui sépare...
Mais disons que celle-là, je l'ai depuis la naissance. Au moins, il n'y a pas de nom d'empereur.
Mais c'est vrai qu'au départ, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose là.
Non, mais beaucoup font la confusion en parlant vite. Oui. c'est vrai, il est tout discret, pas comme moi, mais il est tout discret, donc souvent, on fait cet oubli de lettres. Merci pour vous.
Voilà, et bien merci infiniment, donc Raphaël Brel et Jean-Pierre Armand.
qui ne vivent pas.
Et c'est bientôt, selon la saison, le prochain spectacle,
ce sont de drôles de films.
En attendant, vous aurez toutes ces coordonnées sur notre site, lespoètes.site. À la semaine prochaine.